Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Le plein d'infos et de sport avec Stéphane Genest et Antoine Martin. D'abord les trois grands titres, messieurs.
La réponse à une question que vous êtes beaucoup à vous poser. Comment ça va se passer en cas de coupure d'électricité dans les écoles? Eh bien, on vous dit tout. Et quand on vous dit que rien n'échappe à la hausse des prix, cette dernière preuve, les tarifs des péages des autoroutes vont augmenter de pratiquement 5% en 2023.
À J-1 du 8e de finale des Bleus face à la Pologne dans le Mondial, focus sur le chouchou de Deschamps, Grisou, aussi connu sous le nom d'Antoine Griezmann.
La matinale week-end.
On en sait donc un peu plus ce matin sur le protocole à l'école en cas de coupure d'électricité.
Et on savait déjà que dans certaines régions qui subiront des coupures de courant, il n'y aurait pas d'école le matin cet hiver. Mais ce qu'on apprend ce matin, c'est que ces interruptions prévues dès janvier se feront sur trois plages horaires. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un établissement ne pourra pas être délesté plus de trois fois en tout et jamais deux fois dans la même journée. Les parents et les professeurs, eux, seront prévenus la veille à 19h. Un protocole qui a été communiqué hier au syndicat enseignant, réunion à laquelle a assisté Sophie Vinetite, secrétaire générale du SNES-FSU.
On va être dans la plus grande désorganisation. On ne sait pas trop comment vont fonctionner les transports scolaires, à la cantine. On va avoir des repas froids, mais il n'est même pas certain qu'on puisse servir de tels repas. La diffusion de l'information aux familles est également très incertaine. Ensuite, on nous dit que sur toute la période de la crise, les établissements ne subiraient pas plus de 3 délestages sur la période. On ne sait même pas combien de temps va durer la crise. Ça semble quand même assez hasardeux. Et au final, c'est vraiment ce sentiment d'amertume de constater que le gouvernement n'a pas considéré que l'éducation nationale devait être prioritaire pour être approvisionnée en énergie.
Autre grand titre ce matin, 49-3. Après 7 utilisations du 49-3, 7 motions de censure, le budget de la Sécurité sociale a été validé cette nuit à l'Assemblée nationale.
Un point final pour ce texte adopté définitivement donc. Autre texte d'ailleurs qui pourrait aussi faire grincer des dents dans l'hémicycle, celui de la réforme des retraites. Objectif été 2023 pour l'exécutif. Dans les grandes lignes, le gouvernement souhaite un recul du départ à la retraite à 65 ans. Sera concernée la génération du second semestre 1961 et une nouvelle pas forcément bien reçue dans ce marché de Rosay en Loire-Atlantique, Alexis Vivier.
Et sur ce marché de l'agglomération nantaise, on se charge d'annoncer la nouvelle. Les concernés seront celles et ceux nés à partir du second semestre 1961. C'est la surprise pour Sylvie, une charcutière.
Oh merde, moi je suis 64.
Une mauvaise nouvelle qu'elle prend tout de même avec le sourire.
Bon, non, j'aime bien mon travail, c'est un peu casse-pied, mais c'est pas grave, on fera avec. Hein. Puis moi, quand il y a des longues carrières, on peut partir plus tôt peut-être.
Un critère qui sera effectivement pris en compte, mais sur l'étal d'en face, Claudine est de 64, et d'apprendre qu'elle sera concernée, eh bien...
Une très mauvaise nouvelle même, ça nous fait un petit peu mal au cœur. Pourquoi nous, faut qu'on travaille plus, quoi. C'est ça, donc c'est une réaction quand même qu'on a vexante un peu. Parce que normalement, je devrais l'avoir à 62, donc j'ai encore un an à travailler.
Et pour cause, la nouvelle vie de retraitée avec son mari, Claudine s'y voyait déjà.
Bah, des voyages et puis faire autre chose ensemble pour en profiter avant que soit là où l'autre y part, quoi. Parce que mon mari, il est en retraite depuis 5 ans. Très mauvaise nouvelle du jour, oui.
Un allongement progressif de quelques mois pour chaque génération à partir de l'été 2023.
Et vous, qu'en pensez-vous, cette réforme? Il faut la faire ou il faut la combattre? 32-16, c'est à vous de nous dire aujourd'hui. On y revient tout à l'heure à 7h10 avec Margot Bourdin.
Mais pour l'heure, cette nouvelle hausse des prix, elle concerne les péages dès février 2023. Prendre l'autoroute sera plus cher, plus 4,75% en moyenne dans tout le pays. Une augmentation des prix, oui, certes, mais qui va s'accompagner de mesures de protection supplémentaires pour les automobilistes. Explication Alexandre Distel.
4,75% de hausse sur le prix des péages, c'est tout simplement du jamais vu depuis 10 ans. Mais cette hausse reste largement en dessous de l'inflation de référence, bien loin des 7 ou 8% évoqués au début des négociations entre le ministère des Transports et les concessions autoroutières. Il n'empêche que cette augmentation reste un coût supplémentaire pour les automobilistes. Et pour alléger la note, Sanef, APRR et Vinci, les trois principaux propriétaires du réseau autoroutier en France, vont accorder une réduction de 40% dès qu'un automobiliste aura réalisé au moins 10 allers-retours aller-retour dans le mois et sur un trajet quotidien. Cette ristourne s'appliquera directement sur la facture. Autre mesure, une réduction automatique de 5% pendant un an à tous les propriétaires de véhicules 100% électriques sur une grande partie du réseau autoroutier. Attention cependant, ces réductions ne s'adressent qu'aux abonnés télépéage.
En bref, 6 trains de grande ligne sur 10 annulés ce matin dans tout le pays. Mouvement de grève des chefs de bord et des contrôleurs SNCF. Ils demandent une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail.
Et puis la politique avec les 90 000 adhérents des Républicains appelés aux urnes aujourd'hui.
Premier tour du congrès LR pour désigner le nouveau président du parti avec 3 prétendants pour le poste, Romain Cluzel.
Celui qui apparaît comme le favori, c'est Éric Ciotti. Le député niçois qui défend une ligne dure, notamment sur l'immigration, peut compter sur sa puissante fédération des Alpes-Maritimes et sur sa popularité en interne depuis le congrès de l'an dernier où il s'est retrouvé en finale avec Valérie Pécresse. Face à lui, Bruno Retailleau, davantage conservateur sur les questions sociétales, le Vendéen a le soutien d'une grande partie de ses collègues sénateurs. Et puis, il y a un troisième homme qui espère bousculer ce duel annoncé, Aurélien Pradier, jeune député moins connu du grand public, tenant d'une droite sociale à la Chirac et soutenu par Xavier Bertrand. Les trois candidats font le même constat. Les Républicains est un parti aujourd'hui très faible et tous veulent incarner une opposition ferme à la majorité présidentielle. Reste à trouver le moyen d'exister et de peser entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
RMC 6h06. Les sports, Antoine Martin. Eh bien, c'est le Qatar. Les huitièmes de finale, c'est à partir d'aujourd'hui. Pour la France face à la Pologne, il faut attendre encore 24 heures.
Et c'est demain à 16h, France-Pologne, avec notre dispositif RMC sur place avant match et la rencontre à suivre en direct. Évidemment, coup de projecteur ce matin sur le talisman de Didier Deschamps. Antoine Griezmann, repositionné dans le milieu de terrain, véritable liant des tricolores, c'est l'homme fort de ce début de mondial côté bleu, Fabrice Hawkins.
Antoine Griezmann joue au milieu depuis le début du mondial, ça lui réussit plutôt bien.
C'est assez libre, là j'ai 3 joueurs devant moi, plus de possibilités, plus de choix, donc plus facile pour moi. Physiquement je suis très bien et quand je suis bien physiquement, ma tête est beaucoup mieux, donc c'est plus facile pour moi.
Si le numéro 7 des Bleus a retrouvé la confiance, c'est aussi grâce à Didier Deschamps.
Je lui dois tout en équipe de France, c'est une très belle relation. Je donne tout pour le maillot, pour la France, mais aussi pour lui. Chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie.
Le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus est en harmonie avec Kylian Mbappé, à qui il a délivré une passe décisive contre le Danemark.
Je commence à comprendre un peu son jeu, ce qu'il a besoin, ce qu'il veut, donc c'est plus facile après beaucoup de matchs ensemble.
Il ne reste plus qu'à marquer un petit but. Antoine Griezmann y était presque contre la Tunisie. Depuis l'Euro 2016, le joueur de l'Atlético a toujours marqué au moins un but dans les grandes compétitions avec l'équipe de France.
Hier, c'était la fin des phases de groupe. Exploit du Cameroun face au Brésil, mais inutile. Une victoire 1-0 grâce à Aboubakar. Les Camerounais terminent derrière les Suisses. Vainqueur de la Serbie 3-2. L'ailier des Lions indomptables, Brian Bemo, était tout de même fier de sa sélection.
Pour le Brésil, c'est quelque chose de très grand de battre le Brésil en Coupe du Monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on a quand même fait le travail et on a tout donné pour pouvoir se qualifier. Malheureusement, c'est la fin pour nous, mais on reste quand même content et fier de ce qu'on a fait.
Et le Cameroun, première nation africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde, certes remanié car déjà qualifié. La CELESAO affrontera la Corée du Sud en 8e. Les Coréens vainqueurs en toute fin de match du Portugal 2-1. Les coéquipiers de Ronaldo affronteront eux la Suisse en 8e. Élimination du Ghana et de l'Uruguay. Début des 8e ce samedi, Pays-Bas, États-Unis à 16h et Argentine, Australie à 20h.
Et ce sera à vivre bien sûr sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde 2022. Sur qui faut-il miser entre l'Argentine et l'Australie? Réponse dans un petit quart d'heure avec la Dream Team des Paris RMC, coach Courbis et Jean-Christophe Drouet. En attendant, vous êtes là, c'est un plaisir de vous retrouver, même malade, même au bord de la tombe, je serai là.
Pour arrêter.
Vous entendre le week-end.
Vous avez juste un rhume, Mathieu, ça suffit.
Oui,
ça m'en rajoutez pas.
Vous savez comment
un homme malade. Ah ouais, non,
mais. Oui. Dès qu'on a le petit nez qui coule.
Le rhume, vous allez y passer, quoi.
Bon, en tout cas, beaucoup de messages, ça me fait bien plaisir. Tout le monde est là ce matin.
Et oui, Seb est déjà là, il dit salut la compagnie. Moi, je suis dans mon camion et il fait bon.
Ah, bah, vous avez bien de la chance, Seb.
David, salut l'équipe du week-end. Bon, bah, la météo dans l'aviron, 2 degrés, il fait froid, mais il ne pleut pas, c'est déjà ça de prix pour le travail de ce week-end. Bonne journée à vous tous. Et
salut,
puis
David.
Françoise, un petit coucou à mes charmantes voix, Mathieu, Peggy. J'aimerais que vous souhaitiez un joyeux anniversaire à ma petite fille Sarah qui va avoir 15 ans aujourd'hui.
Eh ben, joyeux anniversaire, Sarah.
Bon anniversaire, Sarah.
Et un gros bisou, Françoise.
Fidèle auditrice d'RMC.
Oui. et penser à l'anniversaire de sa petite fille de 15 ans, le souhaiter sur RMC, ça c'est une belle preuve d'amour. Un gros bisou à vous deux. Tiens, du Nord, nous partons complètement au Sud-Est, à Nice. Bonjour Abdel.
Bonjour Abdel.
Bonjour Mathieu, bonjour Piggy.
Comment ça va ?
Tour de France sur RMC le matin.
Un petit rhume aussi comme Mathieu.
Eh ben voilà, cette saison Abdel.
Comme Mathieu.
C'est quoi votre remède, vous ?
Bah écoutez, rien pour l'instant, j'ai passé une nuit blanche hier et là je suis sur la route pour aller travailler.
Nuit blanche parce que vous n'arriviez pas à dormir ?
J'ai touché toute la nuit en fait, c'est à tout.
C'est l'enfer, hein. On pue dans le lit, c'est infernal.
Merci pour les détails.
J'ai dormi tout seul hier, vous inquiétez pas.
Ah bah voilà, ouais. Vous avez bien fait, parce que moi le lendemain matin, ma femme m'a dit, mais l'odeur m'a réveillé.
j'ai pris mes précautions, je suis parti direct le soir. Je lui dis, les bonnes nuits, elle m'a dit, tu vas où ? Je vais dormir tout seul parce que ça va être compliqué pour toi.
Bon, ok, Abdel, vous avez bien fait.
J'ai bien fait, je pense.
Ouais, vaut mieux prendre ses précautions dans ces cas-là. C'est mieux pour l'avenir du couple, Abdel.
Voilà.
Bon, vous avez ces discussions quand même dès le matin ?
Ouais.
Oui.
Moi, ça va. Écoutez, ça va aller. Tant que vous êtes là, ça va aller. Vous aussi, de toute façon, pas le choix au boulot, hein.
Super. Moi, le boulot, c'est 6 sur 7.
6 sur 7, Abdel.
Ah, 6 sur 7, ouais.
Et vous allez où, là, Abdel?
Ben là, je vais au dépôt là, pour faire une petite livraison ce matin. C'est un peu d'électroménager, c'est tout mélangé.
Et vous livrez dans le coin de Nice? Vous allez plus loin?
Nice, autour jusqu'à maximum Cannes, ouais.
Bon.
Cannes, Nice. De l'arrière-pays, Nice, un petit peu. Et aujourd'hui, je pense que ça va être calme parce que comme il pleut, je pense que la tournée de l'arrière-pays, on va la décaler pour lundi.
Mais
c'est vrai que le temps n'est pas génial.
C'est ce que j'allais vous dire. Soyez prudent sur la route ce matin, Abdel. Hein.
Ah, obligatoire. Ouais, ça glisse en plus. Alors, on fait attention.
Bon, merci de votre petit coup de fil. Ça fait chaud au cœur.
Je vous remercie.
On vous embrasse.
Je vous écoute depuis 2006.
Oh là là.
Depuis 2006, je suis un fidèle. Depuis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un journaliste qui s'appelait Fabien Combé.
Oh, mais bien sûr.
Voilà. Après, il y a Mathieu Billard et après, il y a Vivo, Charles, tout, voilà. Depuis 2006. Voilà.
Au petit matin, un auditeur, Abdel, qui se lève tôt et infidèle. Bonne route, Abdel.
Du matin tous les jours.
Et bon rétablissement.
Merci.
Je vous permets de vous embrasser malgré que je suis malade de loin.
Oui, ça se fait au téléphone. Salut,
bonne
Abdel.
Bonne journée à tous, c'est pas
bonne journée.
À bientôt, salut.
Au revoir.
C'est sympa d'avoir Abdel, on se sent moins seul. Quand
même. Vous sentez moins seul en tant que malade.
Oui, mais d'ailleurs, parlons-en, tiens, dans un instant.
Eh bien oui, parce qu'on va vers un hiver rigoureux, marqué par les coupures de courant.
Oui, au-delà de toutes ces virus, de toutes ces maladies, 65% des Français ont peur de passer un hiver difficile. Un tiers d'entre eux ont même prévu un budget spécifique pour acheter des doudounes, des bouillottes. Est-ce que vous appréhendez cet hiver en particulier ? Comment vous vivez ces premiers jours de froid ? Vos témoignages au 32-16, on se retrouve dans une petite minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
6h13, 3 décembre aujourd'hui. Troisième jour de l'hiver météorologique, Pays Broche, c'est bien cela ?
Exactement.
Troisième jour de froid sur tout le territoire, nous sommes d'accord.
Oui.
Première gelée, premier flocon de neige en pleine et premières inquiétudes des Français. 65% ont peur de subir un hiver rigoureux. Étude nationale réalisée par BuzzPress pour Rotelec. 27% ont même prévu d'investir dans des chauffages d'appoint, des vêtements chauds. Et certains prévoient aussi de rester plus longtemps au boulot. Pourquoi ? Bah parce que les bureaux sont bien chauffés. Inquiétude amplifiée évidemment par ces annonces de probables coupures de courant dès le mois de janvier. Le reportage de la rédaction d'RMC est signé ce matin Amandine Réo.
Première vague de froid et Yanis, 18 ans, est toujours en short chez lui.
Moi, bon, je suis pas très frileux, c'est vrai, mais je fais beaucoup de sport. Ça m'aide beaucoup à tenir chaud et je mange beaucoup d'ailleurs.
Cet étudiant attend que le froid s'installe pour s'équiper, mais pas Sherifa et Morgane, deux collègues venus dans ce magasin de sport pour acheter...
Une polaire. Là, je suis plutôt dans les rayons hiver et ski. Ben, ça va être ça, quoi.
Pas question d'augmenter le chauffage, cela coûte déjà trop cher.
On respecte les 19 degrés à la maison, on met des petites polaires pour les jumeaux, pour les mamans, et on va subir la situation et on va faire en sorte de pas faire exploser les factures et que personne soit trop malade avec ces températures fraîches.
Laurent vit dans une passoire thermique, sa chaudière a explosé mais ce cinquantenaire n'a pas les moyens de la remplacer et avec ses deux radiateurs d'appoint, il ne gagne qu'un petit degré.
Combien il fait 14, 15.
Alors il a adopté la technique de l'oignon.
Pantalon polaire, vous voyez, ça c'est de la polaire, ça c'en est une.
Vous avez combien de couches ?
Là, grand classique, hein, je suis à 4.
Pour tenir tout l'hiver, il a trouvé une astuce.
Je vais isoler avec du papier bulle, le meilleur isolant étant l'air. J'ai acheté un gros rouleau de papier bulle, ça coûte 20 euros. Je vais simplement faire des matelas en papier bulle, double épaisseur, étanche, et je vais plaquer ça. Non seulement sur les fenêtres, mais même sur les murs, qui eux sont très froids aussi. Et Avec ça, normalement, je n'ai pas besoin de chauffer.
Tiffaine, étudiante en STAPS, elle est très frileuse. Son rituel dès qu'elle rentre à la maison.
Je suis tout le temps sous la couette. Et tout ce qui est polaire et tout que j'utilise au ski, je les mets chez moi.
Mais pour avoir bien chaud, elle allume le chauffage, ce qui ne plaît pas vraiment à ses parents.
Ils préfèrent avoir froid que payer, par exemple, le chauffage. Et moi, c'est l'inverse. Vu que je paye pas, du coup, bah, je l'allume tout le temps.
Quant à Yanis, il compte bientôt troquer le short contre un article de la garde-robe de sa mère.
Un peignoir en fourrure qui tient très chaud. Quand j'ai vraiment froid, oui, je pique son peignoir. J'essaie de lui dire, bon, faut penser aux autres.
Alors qui sait, cette année, il y aura peut-être un peignoir pour lui sous le sapin.
J'adore toutes ces techniques. Merci Amandine Réau. Mettre le peignoir de maman, la combi de ski à la maison, le papier bulle sur les murs. J'adore et en même temps, c'est un peu effrayant. Nous sommes en France.
On est bien d'accord. Et alors vous, dites-nous, est-ce que vous avez peur de passer un hiver difficile? Avez-vous froid à la maison? Comment vous préparez-vous? On attend vos témoignages au 32-16 et sur l'appli RMC onglet Direct Studio.
Angélique est déjà avec nous depuis la Gironde. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Infirmière libérale, inquiète par ces coupures de courant dès le mois de janvier pour vos patients, j'imagine.
Exactement, effectivement, les patients sont quand même hyper dépendants en matière de soins de l'électricité, je trouve, ne serait-ce que pour les matériaux, enfin, les appareils qu'on utilise pour leurs soins, type matelas anti-escar, oxygène à domicile. Moi, je parle que dans le domicile, parce que je sais que les hôpitaux vont avoir les groupes électrogènes et tout ça. Mais nos patients, non. Donc, voilà.
Quand il y aura des délestages dans certaines communes, voilà. En plus, voilà. On sait déjà que ce sera probablement les communes les plus rurales, Angélique. Oui. C'est sûr que...
Je suis dans une commune de à peu près 300 habitants. Donc, je pense que oui, on va être délesté. Voilà. Après, je sais qu'il faut faire des économies. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'entends. Mais comment gérer ça? Comment nous gérer ça?
Pour un patient hospitalisé à domicile, l'apport d'oxygène, une coupure de courant, qu'elle soit d'une minute ou de deux heures, évidemment, c'est dramatique. Pour un matelas anti-escar, pourquoi ça pose problème? Expliquez-nous, ça fonctionne comment?
Alors, un matelas anti-escar, en fait, c'est un matelas, en fait, c'est une poche qui est remplie d'air par un appareil qui propulse de l'air dedans, qui alterne, qui fait à certains niveaux, au point d'appui, talon, sacrum, au niveau de la tête, pour éviter les escars. En fait, les escars, c'est la mort de tissu entre deux plans durs, votre os et le sommier du matelas.
Oui,
Donc voilà, et là, c'est ce qu'on appelle la nécrose des tissus. Donc,
et ça,
en 3 heures, ça s'installe.
Ah voilà.
Donc, en 3 heures, donc, les escars s'installent.
On commence à rentrer, on parlait d'escar, quand il y a une rougeur, en fait, il y a différents stades, et en 3 heures, ça s'installe.
Donc là aussi, s'il y a des coupures de courant, on nous dit par exemple entre 10h et 13h, ça fait 3 heures, là aussi, ce serait dramatique pour vos patients. Plus personnellement, Angélique, à la maison, pour vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, mais inquiète par cet hiver?
Non, moi je pense qu'en tant qu'adulte, qui nous sommes sains, qui avons, voilà, je pense, il faut arrêter de, je pense que nos anciens ont vécu des choses bien plus difficiles en matière de coupure d'électricité.
Ouais.
Ils s'en sont sortis. Je pense qu'on peut y arriver. Après, qu'on ait la crainte, qu'on ait la peur. Oui, je veux te l'entendre.
Ouais.
Mais c'est comme tout, c'est la première fois. Et après, on peut y arriver. Mais ces patients, mes patients en l'occurrence, ne peuvent pas. Ils ont besoin de leurs matériaux, et, enfin de leur service et tout ça. Mais
pour les autres en bonne santé, il faut arrêter de se plaindre et on va réussir à s'adapter, ressortir les bouillottes.
Je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de se plaindre. On est des Français, c'est un peu notre leitmotiv. Mais attendons de voir.
Relativiser et dédramatiser. Merci beaucoup Angélique de votre coup de fil, de ces précisions très utiles. Comment ces coupures de courant impacteraient votre profession ou les gens pour qui vous travaillez, comme Angélique et ses patients? 32-16 ce matin pour vos témoignages. Il est 6h19.
À suivre dans la matinale week-end.
Une appli française élue meilleure appli du monde.
Ça s'appelle Be Real, une sorte d'anti-Instagram. Le détail avec Anthony Morel, c'est déjà demain, dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Il est 6h20, soyez les bienvenus. Le début des huitièmes de finale au Qatar, c'est à partir d'aujourd'hui. Pays-Bas, États-Unis et Argentine, Australie. Sur qui faut-il miser? Coach Courbis, Jean-Christophe Drouet sont avec nous dans 2 minutes. Mais d'abord ce cocorico.
RMC, la matinale week-end.
C'est déjà demain.
C'est Apple qui le dit, le géant américain a publié la liste des meilleures applis mobiles, le App Store Awards.
Et Apple nous dit que la meilleure appli du monde est française. Bonjour Anthony Morel.
Bonjour.
Cette application s'appelle Be Real, avec un accent formidable. C'est un réseau social made in France, qu'on pourrait décrire comme une sorte d'anti-Instagram. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs.
Bah oui, on en avait parlé il y a quelques mois et son succès ne s'est pas démenti depuis. Alors le nom est en anglais, ça aide pour le succès à l'international, mais c'est une application qui est bien française. Donc Be Real, c'est soit vrai, soit réel. Donc c'est comme Instagram, un réseau social sur lequel on publie des photos, sauf que, il y a une petite subtilité, c'est qu'on n'a pas de photos filtrées, retouchées, truquées. Non, sur BeReal, on reçoit chaque jour à une heure aléatoire une alerte. Et à partir de là, on a 2 minutes chrono pour prendre sa photo.
Ah oui, donc on peut pas tricher.
On peut pas tricher. Alors en fait, c'est une double photo. Une photo de son visage, selfie quoi, et puis l'autre de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc ça peut être n'importe où, n'importe quand. Le matin, on est à peine réveillé. Le soir, on rentre, on est dans le bus, on a des cernes sous les yeux. Et c'est tout le génie de cette application. On n'a pas le temps de se mettre en scène. On n'a pas le temps de jouer sur la lumière. Et c'est cette spontanéité, cette authenticité qui permet de revenir à une forme d'authenticité très loin des réseaux sociaux traditionnels. Quoi.
Une appli devenue un véritable phénomène aux États-Unis, notamment chez les jeunes.
Oui, mais je pense que le timing était vraiment très bien choisi. C'est-à-dire qu'à l'heure où on reproche de plus en plus aux réseaux sociaux leur effet nocif, générateur de complexes chez les adolescents, et notamment aux États-Unis, on les compare souvent maintenant aux grands industriels du tabac termes de nocivité. C'est un discours, une comparaison qui revient souvent. Et cette application, du coup, elle est presque salutaire. Parce qu'enfin, c'est la vraie vie des gens. Et d'ailleurs, on y trouve beaucoup moins de stars et d'influenceurs qui n'ont pas forcément envie de se montrer sous un jour trop banal, peut-être. Et c'est ce qui explique ce succès assez soudain. L'application a été créée en 2019. Début 2021, elle comptait seulement 10 000 utilisateurs et aujourd'hui plus de 50 millions de téléchargements. Elle a trôné pendant des mois en tête des boutiques d'applications, toutes catégories confondues. Et l'entreprise aujourd'hui vaut 600 millions d'euros. Cette jeune entreprise, c'est pas mal, hein, alors qu'elle ne génère aucun argent. Il n'y a pas de pub et elle est complètement gratuite pour l'instant.
Le problème, c'est que est-ce que ça va tenir, quoi ? Parce que c'est toujours un peu le problème avec ce genre d'application. Il y a un succès fulgurant et après ça retombe.
Oui, vous vous souvenez de Clubhouse par exemple ?
Pas du tout.
Bah non, on en avait beaucoup parlé pourtant à une époque. Je sais pas. C'était le réseau social qui devait tout chambouler, basé sur la voix beaucoup, et tout le monde lui promettait un avenir radieux. Et au final, cette appli, elle est complètement oubliée. En fait, elle a été copiée par Twitter, qui a repris cette fonctionnalité dans son application. Et puis finalement, l'appli a complètement disparu. Donc on espère pour BeReal que ça ne va pas se passer de la même manière. C'est un grand classique des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on voit que par exemple, Instagram commence à tester des fonctionnalités qui se rapprochent fortement de ce que propose BeReal. Donc on leur espère une plus grande continuation que ce qui a existé par le passé.
Oui, ne pas se faire absorber par le géant Instagram. Merci Anthony Morel. C'est déjà demain. À retrouver en podcast sur l'appli RMC 6h23.
La matinale week-end.
Les paris RMC.
Allez Peggy, allez les Bleus. C'est demain en France-Pologne, les huitièmes de finale. Mais ça démarre dès aujourd'hui. Roland Courbis, Jean-Christophe Drouet, la Dream Team des paris RMC, bonjour.
Bonjour Mathieu, bon samedi à tous.
Salut Mathieu et salut à tous.
Alors le début des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui à 16h, Pays-Bas-États-Unis et 20h, Argentine-Australie. Coach, tu as choisi cette rencontre pour parier. Rencontre, c'est vrai, assez déséquilibrée. Les cotes 1,19, la victoire de l'Argentine. 7, le match nul. 15, la victoire de l'Australie. Attention, quand on parle de match nul, on parle jusqu'à 90 minutes. Ensuite, les prolongations, c'est autre chose, mais on peut évidemment parier sur ces prolongations, voire sur des tirs au but. Déjà, le pari, le coup sûr, j'ai envie de dire, de ce match, coach, c'est quoi ?
Je vois l'Argentine en amélioration, puisqu'ils ont raté leur premier match. Et là, dernièrement, je trouvais une équipe solide qui peut redevenir outsider de cette Coupe du Monde. Donc, je partirai sur Argentine plus 2,5, puisque je m'imagine un match comme ça.
Ok, donc la victoire de l'Argentine, 2,5 de buts par match, donc au moins 3, on a bien compris. Et ça, c'est une cote à 1,74, donc à combiner dans un ticket, on double quasiment la mise, ça peut être intéressant. Ton pari de folie maintenant, coach ?
Je rajouterai Messi qui marque, après avoir raté son pénalty dans le dernier match, ce qui n'a pas empêché ses coéquipiers de continuer à l'adorer et de le consoler. Donc je reste toujours avec ces deux buts et demi. Plus Messi, je rajouterai peut-être une première mi-temps un petit peu difficile où on peut avoir un match nul à la mi-temps et gagner après. Donc voilà, donc Argentine plus 2,5, plus Messi, plus nul à la mi-temps.
Et ça, ce nul à la mi-temps fait drôlement grimper la cote. On arrive à une cote magnifique de 9,50, 10 euros, 95 euros. Merci mon coach.
Mais voilà.
Les huitièmes de finale à suivre sur RMC. Et puis demain, évidemment, dimanche, il y aura l'équipe de France face à la Pologne.
Oh, qu'on est impatients, messieurs. Oui. Et tous les paris pour tous ces huitièmes de finale, c'est tout à l'heure à midi avec vous, les paris RMC. Du côté des hippodromes, là aussi, nous misons avec la Dream Team des courses RMC cette fois. Bonjour Mathieu Zaccanini.
Bonjour Mathieu.
Nous sommes à Vincennes aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous y serons tout ce week-end. Commençons d'abord par aujourd'hui.
Et tout à fait, on est en plein meeting d'hiver sur l'hipporome de Vincennes. Il y a énormément de courses, et notamment ces deux quintés de samedi et dimanche. Et pour le quinté de samedi, il s'agit du prix de Saint-Georges de Didonne, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 et 7 ans. Ils vont s'affronter sur la distance des 2850 mètres avec deux poteaux de départ, et ils sont 14 à prendre part à cette compétition.
Le prix de Saint-Georges de Didonne ?
Tout à fait.
Mais vous savez que c'est mon lieu de vacances, Saint-Georges de Didonne ?
Ah, vous ne le saviez pas, mais
c'est juste à côté de Royan.
Eh bien, ça sera l'occasion pour vous, Mathieu, de parier, je pense.
Ah bah exactement, franchement, alors là, je vais le faire, parce que c'est un signe, Saint-Georges de Didonne.
Ah, c'est un signe.
Alors, je vous écoute pour vos conseils. D'abord, votre dernier bruit, Mathieu.
Alors, notre dernier bruit, celui de la Dream Team des courses RMC, ce sera le numéro 9, Gaspard Brion, qui vient d'effectuer deux courses de préparation pour ce bel engagement. Gaspard Brion, qui est entraîné d'ailleurs par Mathieu Abrivard, qui sera également sur son sulky. Mathieu Abrivard, qui n'a pas son pareil en tant qu'entraîneur pour pouvoir avoir une réussite avec ses pensionnaires. Quand il prépare bien ses chevaux, en général, ça se passe très bien. Il est en grande forme et je pense que il devrait faire feu de tout bois et il doit viser la victoire, ce numéro 9, Gaspard Brion.
Alors, j'ai noté numéro 9, si jamais par malchance il ne part pas.
Si jamais il ne part pas, on va faire confiance à un cheval régulier, qui est le numéro 11, un Gold River, qui reste sur une série de belles performances, notamment une troisième place obtenue le 3 novembre dernier sur cet hippodrome, sur la grande piste de Vincennes. Il est très confirmé. Normalement, je pense qu'il ne doit pas sortir des 5 au minimum, également ce numéro 11, Gold River.
Merci Mathieu. Tous les pronostics à retrouver sur rmc.fr. Les coupures de courant cet hiver, qui nous préviendra? Combien de temps à l'avance? Quelle organisation? Tout le détail et les réponses à la une du journal de 6h30. À tout de suite. Soyez les bienvenus sur RMC, 3 décembre, et c'est froid ce matin, Peggy.
Oh oui, c'est froid, c'est vrai, on a quelques petites gelées du côté d'Aurillac, Clermont-Ferrand, Grenoble, et globalement, on est entre 3 et 4 degrés, elle est parfois 2 degrés ce matin sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, on sera souvent aux alentours des 5 degrés sur la moitié nord, 6 à 9 degrés dans le sud-ouest, et toujours plus doux près de la Méditerranée, 10 à 14 degrés, on a même 18 degrés prévus à Ajaccio. Maintenant, côté ciel, on a une perturbation qui concerne un quart sud-est entre la Méditerranée et le Massif central, avec de la neige à basse altitude et des averses orageuses soutenues cet après-midi. Sur le reste du pays, c'est un temps sec, alors sauf près de la Manche où on a quelques averses, également dans l'après-midi sur les littorales de l'Atlantique, mais partout ailleurs un temps sec, quelques bruines ici ou là, quelques flocons également au nord de la Loire, mais sinon c'est de la grisaille qui va dominer toute la journée.
Merci Peggy, ravi de vous accompagner sur RMC en ce samedi. Il est 6h30. À la une, Stéphane Genest, les écoles de vos enfants qui ne seront donc pas épargnées par les coupures de courant cet hiver.
Et cela alors que le froid, on en parlait avec Peggy, pointe le bout de son nez. Le protocole pour les interruptions d'alimentation en électricité dans les établissements scolaires a été dévoilé. Les parents seront prévenus la veille à 19h. Mais plus généralement, pour organiser tout cela, ce sont les préfets qui sont à la manœuvre. Ils ont reçu une circulaire pour savoir comment faire et surtout quoi faire, Alfred Orange.
Informer celles et ceux qui seront épargnés par les risques de coupure d'électricité à partir de janvier, voilà la mission des préfets. Et comme tout le secteur de l'agroalimentaire, Tanguy Roesland, patron d'une chocolaterie, attend un coup de fil. Il aimerait encore être considéré comme prioritaire, même si ce n'est pas ce qui est prévu.
On croise les doigts. Évidemment, on a fait valoir qu'on a une quarantaine de personnes à la production et que sans électricité, on ne peut pas fondre le chocolat, on n'a pas de chambre froide et donc chômage technique pour notre personnel.
Les préfets demandent également aux maires de recenser les personnes qui devraient être évacuées vers des hôpitaux en cas de coupure d'électricité.
Les personnes les plus âgées ou alors les personnes handicapées ou qui ont des insuffisances respiratoires.
Mission que doit remplir tant bien que mal Fabienne Labrette, ménagère, maire de Fresnay dans la Sarthe.
C'est très difficile parce qu'on n'a pas accès au nom. Et donc si les gens ne viennent pas s'inscrire en mairie, moi je ne sais pas comment faire. C'est quelque chose d'être très compliqué à mettre en place.
Et les élus locaux sont également chargés de vérifier si les groupes électrogènes de leur commune fonctionnent ou encore de solliciter les bénévoles d'associations comme la sécurité sécurité civile qui pourraient être mobilisées en cas de coupure d'électricité.
Alfred Orange pour RMC.
Ça continue aujourd'hui, des trains annulés et retardés. Si vous avez prévu de voyager via le rail, le trafic reste très perturbé aujourd'hui.
6 trains de grande ligne sur 10 annulés dans tout le pays. Mouvement de grève des contrôleurs et des chefs de bord qui assurent notamment la sécurité et le bon déroulement du trajet. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. Écoutez le quotidien de Fabienne et Nicolas. Tous les deux sont contrôleurs depuis 25 et 23 ans.
Un coup, on peut travailler 5 jours, un coup 3 jours, un coup 6, avec des repos qui sont variables. On est amené à partir en déplacement tout le temps.
Au mois de novembre, j'ai dormi hors de chez moi 7 fois.
Alors moi, je suis maman solo, j'ai 2 enfants, c'est pas toujours simple.
Ma conjointe est aussi contrôleuse, on n'a aucun repos ensemble. On se passe les enfants des fois sur le quai de la gare. Voilà. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. On a signé pour ça, hein. C'est pas le sujet en fait.
On s'ennuie jamais, mais le contrôle, ça représente 3 fois rien de notre métier.
En plus, on a des obligations de sécurité, de sûreté des gens, quand on est seul, quand il y a 700 ou 800 personnes, honnêtement, il ne faut pas que ça parte en cacahuète.
J'aime mes voyageurs quand même, même les pires. Je connais très peu de contrôleurs qui n'ont jamais eu d'agression verbale ou physique dans leur carrière.
Je gagne à peu près 2200 euros par mois et quand j'arriverai en retraite, je toucherai 1400 euros. On veut simplement une reconnaissance de notre travail, en fait. C'est aussi simple que ça, quelque part.
Cette grève, vous la comprenez, vous soutenez les chefs de bord. 32-16 ce matin, tout à l'heure, le délégué Sudrail, Fabien Villedieu, sera avec nous à 8h10 sur RMC. Le reste de l'actualité en bref, Stéphane.
Le budget de la sécurité sociale définitivement adopté par l'Assemblée nationale cette nuit, et cela après cette utilisation du 49.3 par le gouvernement. Une mère de famille mise en examen et écrouée hier après la découverte de 2 bébés morts dans son congélateur. Et Emmanuel Macron achève sa tournée aux États-Unis. Il a rencontré Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. C'est à la une de votre journal de 7h.
Eh bien, rendez-vous est pris. À tout à l'heure, Stéphane Genest. Bonjour Antoine Martin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
RMC, le journal des sports.
France-Pologne, le 8e de finale du mondial. C'est demain, un monument de l'équipe de France va être célébré.
C'est le capitaine des Bleus sous Didier Deschamps. Il participe à sa 4e Coupe du Monde. Hugo Loris, le dernier rempart tricolore, va fêter demain sa 142e sélection à 35 ans. Le Niçois va égaler le record de Lilian Thuram, légende des Bleus, vainqueur de la Coupe du Monde en 98. Reportage chez Hugo Loris, Anissa Labella de Maxime Tillette pour RMC.
C'est ça qui m'a poussé à vouloir venir ici.
Ça fait bizarre de me dire qu'il a marché là.
Les jeunes du FC Cimiez rêvent de son parcours. C'est ici, sur les hauteurs de Nice, qu'Hugo Lloris a démarré son histoire avec le football. Victory est responsable des jeunes du club et il fait tout pour le transmettre aux nouvelles générations.
Chaque fois que je tombe sur un nouveau gardien qui est super, je me dis « Ah, peut-être il y a encore soit d'énergie qui est restée ici dans le club. » C'est ce que j'essaie de transmettre aux petits. Être dans un club où il y a un champion du monde, c'est pas tous les jeunes qui ont cette opportunité-là aujourd'hui en 2022.
Lionel Letizia est élu la doublure d'Hugo Lloris à ses débuts avec l'OGC Nice. Et l'ancien gardien du PSG est impressionné par sa longévité au sommet.
Lui, je ne sais pas si ça rend compte, pour avoir touché du doigt l'équipe de France quand j'étais joueur, avoir vécu ce que c'est comme pression, c'est exceptionnel. Et puis surtout, il faut qu'il continue, parce qu'il est en pleine forme. Je pense qu'il peut faire une 5e Coupe du Monde.
Mais avant cela, il y a cette 142e sélection en 8e de finale demain contre la Pologne.
Merci Maxime Thiette. Et on espère évidemment que ce ne sera pas sa dernière cape. Il pourrait battre le record de Lilian Thuram en cas d'éventuel quart de finale. Mais on n'y est pas encore. Il faut que les Bleus battent la Pologne demain à 16h. Et on peut dire que l'optimisme n'est pas de rigueur chez les Aigles Blancs. Joueurs comme journalistes polonais ne sont pas confiants du tout avant ce deuxième affrontement dans un mondial. Léna Marjac.
Le pourcentage de chances de gagner contre la France.
Le public dit qu'on a 1% de chances d'éliminer la France.
Ironise Kamil Grabara, troisième gardien de la Pologne.
Eh bien c'est cool, on s'est donné 1% de plus que si on n'avait pas réussi à sortir du groupe.
Pour l'instant, la Pologne a réussi à battre à seulement 3 reprises l'équipe de France, et notamment une fois en Coupe du Monde en 96. Mais pour Dariusz Faron, journaliste polonais, difficile d'imaginer une nouvelle victoire.
La France est l'équipe la plus dure, celle qui veut conserver son titre. Tous les signes disent que la France va gagner.
Adam Pawlukiewicz, journaliste pour un blog polonais, espère que la défense de son équipe fera déjouer les Français.
On a déjà stoppé Messi, Ronaldo, alors on stoppera aussi Mbappé. On sera très fort en défense.
Alors leur pronostic?
1-0 pour la Pologne, comprenez-moi.
2-0 pour la France, malheureusement.
Réponse demain à 16h, heure française.
Et puis moi, je vous donne mon prono, 2-1 pour les Bleus dans la douleur.
D'accord, 2-1, c'est noté. Hein.
Pour l'équipe
vos
de
pronostics,
France, évidemment.
N'hésitez pas, ce matin, vous nous envoyez vos messages.
RMC 6h36.
Hier, c'était la fin des phases de groupe. On connaît toutes les affiches de ces huitièmes de finale maintenant.
Oui, elle est assez surprenante cette Coupe du Monde au Qatar, enivrante parfois avec les surprises auxquelles on a assisté. On rappelle les nations éliminées, l'Allemagne, la Belgique, l'Uruguay hier et le Danemark dans le groupe de la France. Hier, le Cameroun a battu le Brésil, exploit des Lions indomptables 1-0 grâce à Vincent Aboubakar en toute fin de match. L'attaquant a même retiré son maillot et copé d'un deuxième jaune, exclu. Sans conséquence, les Camerounais sont tout de même éliminés de ce mondial. Ils devaient espérer une victoire de la Serbie face aux Suisses, mais c'est l'inverse qui s'est produit. La Nati a battu les Serbes 3-2 et affrontera le Portugal en huitième. Des Portugais défaits face à la Corée du Sud, qualifiés les Coréens face aux Brésiliens. Début des matchs à élimination directe ce samedi, les deux premiers huitièmes de finale. Pays-Bas, États-Unis à 16h et Argentine-Australie à 20h.
Et à l'occasion de ces rencontres, le fameux brassard de capitaine arc-en-ciel ne sera pas porté, interdit par la FIFA au Qatar. On va retrouver ces brassards en France.
Oui, c'est une initiative de la FFF. Son président Noël Le Graët et le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, ne voulaient pas faire de peine aux amis qatariens, je cite, qui organisent ce beau mondial. Finalement, la FFF a distribué ce symbole de la lutte pour les droits des personnes LGBT aux clubs amateurs en France. Mais le brassard One Love ne va pas être porté partout, Maria Azé.
À l'AS Donnemain, club de 150 licenciés de Ré-Loire, les brassards sont arrivés depuis une semaine. Mais Philippe Brochard, le président, n'y est pas favorable.
Je trouve que c'est faire porter une responsabilité aux joueurs amateurs sur des questions qui peuvent relever du personnel, voire des questions politiques.
Et il ne mise pas sur un grand succès de l'initiative.
Je ne suis pas sûr que dans le foot amateur, dans les spectateurs qu'on va avoir, beaucoup comprennent à quoi correspond ce brassard. Hein. One Love, je ne suis pas sûr que beaucoup comprennent.
Au JS Parigné-l'Évêque, club de la Sarre, c'est l'inverse. Bruno Papin, le président, a tout de suite senti l'intérêt de ses joueurs pour l'opération.
Il y a un brassard qui va être porté par notre capitaine féminine, un autre brassard qui va être porté par notre capitaine masculin, pour montrer aussi que même des petits clubs comme nous à Parigné-l'Évêque, on est tout à fait en phase avec le fait qu'il ne peut plus y avoir de discrimination dans le sport et ailleurs, bien sûr.
Au total, 20 000 brassards ont été envoyés par la FFF dans les clubs amateurs français.
C'était Maria Azé dans le journal des sports d'Antoine Martin. Rendez-vous tout à l'heure 7h pour votre dose d'infos et de sport. En attendant, nous sommes ensemble. La matinale week-end se poursuit, bien évidemment, avec vos messages sur l'application RMC Peggy.
Et oui, il y a Steven, qui vous souhaite un bon rétablissement, Mathieu.
Ah, merci, c'est gentil.
Alors, il dit qu'il nous écoute depuis, des siècles, le siècle dernier même, alors que Radio Monte Carlo n'émettait que dans le sud.
Ah oui, effectivement.
Et il dit, étant de l'Est, c'était donc l'été, uniquement quand je partais en vacances. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et bon anniversaire au Short Message Service.
Qu'est-ce que c'est? Ah oui.
SMS.
Et oui,
30 ans pile.
Ça fait 30 ans.
Ouais,
Le SMS,
vous imaginez?
Vous, Peggy, c'est incroyable.
Arrêtez, s'il vous plaît.
Bon anniversaire. Salut, Denis.
Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
Denis, dans la zone d'émission historique, à Antibes, la zone d'émission historique d'RMC. Ça va ce matin?
Tout à fait, sous la pluie, mais ça va très bien. On se prépare pour aller courir.
Oui, vous allez courir quand même?
Ouais, bien sûr.
Sportif, grand sportif?
Un grand sportif, je sais pas, mais sportif en tout cas.
Vous courez combien de temps? Vous faites combien de kilomètres?
Eh ben là, je vais partir avec mon chien, puis on va faire à peu près une dizaine de kilomètres. On va faire le tour du Cap d'Antibes.
Oui, moi j'appelle ça un grand sportif.
Non, ça, c'est une question d'entraînement, mais 10 kilomètres, il n'y a rien d'exceptionnel.
Oui, mais vous savez, il en faut peu pour impressionner Pays Broche.
C'est clair, surtout côté sport, à ce niveau-là, ouais, c'est sûr. Surtout la course.
Oui.
Avec le chien sur la plage.
Non, le chien, on court en style canicross, c'est-à-dire qu'il est attaché autour de ma taille au bout de la laisse. Et puis,
C'est génial.
Pardon ?
C'est génial. Comme ça, vous profitez ensemble.
Tout à fait.
Je me suis toujours demandé, parce que Peggy, moi aussi, je cours régulièrement 10 km.
Oui, c'est vrai.
Et quand je croise d'autres coureurs comme vous, Denis, avec des chiens attachés à la laisse, je me suis toujours demandé, ça perturbe pas la foulée, votre propre foulée ?
Non, du tout. Enfin, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, il a l'habitude. Et autant quand je le promène comme ça, sans laisse, il va aller à droite, à gauche, dans tous les sens. Il va rien écouter, d'ailleurs. et autant, par contre, dès qu'il voit que je lui mets la laisse et que je mets la ceinture autour de ma taille, il sait que c'est pour courir.
Et là, il s'adapte à votre foulée, en fait.
Lui aussi, il sait que c'est l'entraînement, là. Qu'il ne faut plus rigoler.
Comment il s'appelle, votre chien?
Il s'appelle Rio.
Rio.
Gros bisous à Rio et bon courage à vous, Denis.
Merci. Puis je vous souhaite une bonne journée également sur Paris et bon courage pour votre matinale.
Oui, pour une fois sur Paris, on a à peu près le même temps que chez vous.
Nous, il pleut pas.
Comme ça, on est solidaires. C'est vrai que
exactement.
C'est assez exceptionnel.
Voilà, comme vous dites. D'habitude, c'est vous qui nous narguez. Salut, Denis.
Bonne journée.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Merci d'être à l'écoute d'RMC. Salut. Allez, dans un instant.
La 36e édition du Téléthon, c'est tout le week-end et déjà près de 9 millions d'euros de promesses de dons. Alors on se parle.
Mais à quoi sert cet argent? Où va-t-il? Qui est-il exactement? Eh bien, vous allez tout savoir. Enquête RMC sur le Téléthon dans une minute.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bienvenue sur RMC, 6h44. Agir, se mobiliser ensemble pour faire avancer la recherche, c'est le Téléthon qui est de retour, qui espère retrouver l'équivalent du niveau de promesse de dons d'avant la pandémie. On est ce matin autour de 9 millions d'euros dans la cagnotte.
L'enquête RMC.
À quoi sert cet argent concrètement? À qui est-il distribué précisément? Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Mathieu.
Savoir et comprendre avec vous ce matin, vous avez échangé avec un chercheur dont les travaux sont financés par le Téléthon.
Oui, avec le professeur Frédéric Relais, il dirige Translamuscle, un pôle de recherche médicale d'une centaine de personnes qui travaillent sur les maladies neuromusculaires, des maladies génétiques rares, aujourd'hui incurables, qui affectent le muscle. Le chercheur prend l'exemple de la myopathie de Duchenne.
C'est un garçon sur 3500. Ça va être des dizaines de milliers de personnes en France qui aujourd'hui n'ont pas de solution thérapeutique. Donc c'est des patients qui vont avoir une perte progressive de leur force, qui vont se retrouver en fauteuil roulant et puis après, ils vont avoir plus en plus de mal à accomplir les tâches de la vie courante, simplement même à respirer. Et donc nous, par exemple, on cherche des options pour réactiver la réparation dans le muscle de ces patients.
L'association AFM Téléthon finance 30% du budget du pôle de recherche du professeur Frédéric Relais, des financements sans lesquels beaucoup de ces travaux ne pourraient pas être réalisés, insiste le chercheur.
Mais est-ce que l'entièreté des dons des téléspectateurs vont à la recherche ?
Une grosse partie. Prenons l'exemple de l'an dernier. Le budget total des activités de l'AFM Téléthon s'élève à 103 millions d'euros en 2021, dont 86 millions de dons. Sur ces 103 millions d'euros, 45 ont été dédiés à la recherche médicale et à l'élaboration de traitements innovants. Une des dernières avancées en date, un médicament pour traiter l'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire mortelle avant l'âge de 2 ans. Un traitement qui a déjà sauvé 2000 enfants dans le monde. Et le deuxième gros volet de ce budget est consacré à l'accompagnement des malades et de leurs familles. Au total, 34 millions d'euros. Marie-Christine Loïs est la trésorière de l'association AFM Téléthon.
Ce sont 3 millions de personnes concernées donc par une maladie rare en France. Ce sont des personnes qui vont être accompagnées par des services régionaux. Par exemple, les aider, les accompagner pour constituer les dossiers justement de demande pour du matériel, pour des équipements de maison ou simplement les accompagner au moment du diagnostic.
Et le reste de l'argent, à quoi sert-il, Kevin ?
L'association a dépensé l'année dernière 22 millions d'euros, soit 21% du budget en frais de collecte et de gestion. Pour vous donner quelques exemples, l'affranchissement des promesses de dons, la production des 30 heures d'émission ou encore la mise en place des centres téléphoniques.
Merci Kevin Gasser, enquête à retrouver sur rmc.fr. Dans 1h, 7h40, Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AMF Téléthon, sera notre invitée. 30 heures de direct à la télé, le Téléthon, mais aussi 30 heures de défis culturels, culinaires, sportifs, insolites. Bonjour Anthony Reich.
Bonjour Mathieu.
En direct du cours Philippe Châtrier à Roland-Garros ce matin, je crois que vous êtes avec Eric Salio, parce oui. Que la Fédération Française de Tennis s'associe au Téléthon avec un relais tennis solidaire. 30 heures d'échange sans s'arrêter.
Exactement Mathieu, 30 heures de set, 80 paires de doubles qui se succèdent depuis hier soir 18h et jusqu'à ce soir minuit sans interruption. On est actuellement sur le court avec Eric Salio, je suis au filet justement, je suis le volleyeur dans ce jeu. Et pour l'instant, notre équipe qui est nommée On ne lâche rien, le Téléthon, a marqué 9-7 en face. Nos adversaires ont marqué 14-7. 500 euros par set joué et un minimum de 15 000 euros sera versé au Téléthon jusqu'à minuit. On fera les comptes évidemment ce soir. Des stars du tennis sont évidemment présentes depuis le début. Richard Gasquet, Cédric Pioline ou encore au niveau du foot, Sylvain Wiltord. Et puis l'ancien champion olympique de handball, Thierry Meyer, sera présent sur le court Philippe Châtrier. Et on a évidemment la chance de jouer sur ce court mythique.
J'imagine un peu l'atmosphère particulière là, en pleine nuit sur le Châtrier.
Il fait un peu froid.
Oui, déjà.
Je vous conseille, Mathieu, mais je peux vous dire que le court est très très grand. On comprend mieux ce qui se passe sur ce court Philippe Châtrier. Eric, le court est
immense.
Nickel, mais l'arbitre il voit rien. Elle blanchit. Le point est pour nous, Anthony, bien sûr.
Et même si on est des joueurs du dimanche, on a des discussions effectivement avec l'arbitre parce que là il y a une balle qui est un peu litigieuse sur ce point et on ne lâche rien. Comme les joueurs professionnels, on a aussi la chance de profiter des vestiaires. On sait qui sur les bancs où se changent Raphaël Nadal, Roger Federer pour se préparer à cette heure de tennis. Et pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. On a réussi à maintenir l'écart dans ce 24e set. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'arbres récoltés et cette terre battue si légendaire de Roland-Garros est magnifique, même en mois de décembre.
Je compte sur vous, Anthony Reich et Eric Salio, pour porter haut les couleurs du tennis RMC sur le court Philippe Chatrier à Roland-Garros. L'essentiel, évidemment, c'est aussi l'argent qui sera récolté au profit du Téléthon. Merci à vous deux. Il est 6h50, 7h-10.
À suivre dans la matinale week-end.
Les histoires du week-end ?
Oh que oui, si vous voulez. Il y a encore eu un record pour le Black Friday. Il y a des crapauds qu'il ne faut surtout pas lécher. Et puis une belle histoire de Noël. Voilà, vous avez le programme. Tout le détail dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Allez, dans 20 minutes sur RMC, une grande question avec vous. Est-ce que vous iriez dans la rue pour protester contre la réforme des retraites? C'est ce que promettent la France Insoumise et certains syndicats après les précisions d'Elisabeth Borne. 65 ans, suppression d'un maximum de régimes spéciaux. Est-ce qu'il faut la faire, cette réforme, ou est-ce qu'il faut la combattre dans la rue? Est-ce que vous participeriez à des manifestations 32-16? C'est à vous de nous dire, on en discute à 7h10. En attendant, on se détend avec les histoires du week-end.
Les histoires du week-end.
Margot Bourdin, Peggy Broche, Antoine Martin.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
En forme.
Toujours.
Mieux en forme que moi. Je ne sais pas si c'est français. Mais
ouais, en plus cas, en forme, on dit en général. Mais voilà. Bon, c'est pas grave, vous êtes malade.
Ce qui a retenu votre attention dans la presse du jour, c'est d'abord Margot Bourdin, ce Black Friday qui n'a pas subi de conséquences de l'inflation.
Oui, on vous en parlait le week-end dernier sur RMC. Vous avez peut-être fait vous-même vos emplettes sur Internet. Et bien ce matin, on connaît enfin les chiffres du Black Friday. Et on peut dire que c'est un succès pour les sites de vente en ligne. Le nombre de commandes en ligne a augmenté par rapport à l'année dernière, plus 6%. Principale raison avancée par les experts du secteur, le contexte économique difficile qui pousse les Français à faire des économies, traquer les promos et à limiter leurs déplacements pour économiser quelques précieuses gouttes de carburant. Je vous donne le top 4 de ce qui a été le plus acheté pendant ces 10 jours de promo. Il y a bien sûr d'abord les jouets, la high-tech, téléphone, ordinateur, tablette, le gros électroménager également et enfin des articles de beauté, parfums, maquillage, etc. Nouveauté cette année en revanche, les Français semblent faire plus attention à l'origine des produits. Gros succès pour la boutique Amazon fabriquée en France par exemple, sur laquelle on trouve, comme son nom l'indique, des articles fabriqués chez nous. 34% de ventes en plus par rapport à l'année passée. Pareil pour Cdiscount qui indique que les ventes pour les télévisions réparables, les lave-linges économes en énergie ou les téléphones reconditionnés ont bondi de 10% cette année. Quelque chose me dit en tout cas que sous le sapin, vous pourriez recevoir un cadeau bleu, blanc, rouge ou en tout cas plus respectueux de l'environnement, Mathieu.
Vous avez profité, vous, du Black Friday? Vous avez fait des...
Alors, moi, pas du tout.
Oui, moi non plus.
J'ai acheté une paire de chaussures.
Ah, quand c'est vrai même. Voilà.
Je l'avoue. Plaisir. Vous avez fait les économies.
Antoine?
Pas encore.
C'est terminé, là, maintenant, le Black Friday.
Je suis du genre à aller aux Galeries Lafayette le 24.
Ah,
le
oui.
À retard, vous allez aux Galeries Lafayette.
Je connais, ceux-là.
D'accord.
Antoine Martin, parlez-nous de ces crapauds à ne surtout pas lécher, cette passion particulière de certaines personnes aux États-Unis en quête de sensations très ou trop fortes.
Avez-vous déjà léché un crapaud?
Mais quelle idée!
Non. Mais c'est sûr, autour de la table et chez nos auditeurs, personne n'y penserait. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, si. Nous sommes dans le Nouveau-Mexique, au parc naturel de Saguaro. Et depuis plusieurs semaines, la direction doit publier ce genre de message. Arrêtez de lécher les crapauds, voyons. Surtout le buffo alvarius, qui sécrète une toxine pouvant tuer un chien adulte, mais procurant chez l'homme une substance psychoactive très puissante. Hallucination, perte de l'identité de soi, on ne fait qu'un avec la nature, c'est le nouveau trip Made in US. Ces crapauds rares et protégés sont même braconnés pour gratter et récolter cette toxine sur leur peau qui est ensuite fumée, malheureusement. Il est impossible de reproduire ça en France et on vous déconseille, car ces animaux ne se trouvent que dans les zones arides des États-Unis.
Les gens sont fous.
Non, mais de toute façon, il n'y a vraiment que là-bas qu'on
peut avoir l'histoire. Mais les crapauds, ils se transforment en prince charmant, normalement.
Ah oui,
non, mais enfin bon.
Ça, c'est dans vos rêves. D'ailleurs, Peggy Broche, terminons avec cette belle histoire de Noël.
Bah oui, alors dites-moi, si vous trouviez une liasse de billets par terre, qu'est-ce que vous feriez?
Oh bah, je la prends, je la ramène chez moi, je dis à personne.
Ça, j'en étais sûr, Mathieu.
Je la garde pour moi.
Je garde tout aussi.
C'est vrai, Margot?
Surtout s'il y en a beaucoup.
Oh, mais Antoine ?
Une liasse comment ? Une vraie liasse ?
Ouais, vraiment beaucoup.
Je pense que quoi qu'il arrive, je le mets dans la poche et puis.
Vous partez avec, même s'il y a l'adresse de la personne.
C'est différent.
Eh ben voilà. En fait, en Suisse, un homme a perdu 20 000 francs, soit l'équivalent de 20 300 euros dans la rue. Et un couple de bons samaritains a rendu l'argent. En fait, il est allé au distributeur. Il a retiré cette grosse somme d'argent qu'il a mise dans une enveloppe. Manque de bol, il a perdu l'enveloppe, il s'en est rendu compte et donc il est allé au poste de police pour déclarer un vol. Mais c'était sans compter sur l'honnêteté d'un couple qui a retrouvé cette enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait un ticket avec l'adresse de ce monsieur. Et ben, qu'est-ce que le couple a fait ? Il s'est rendu au domicile de cet homme pour lui rendre l'intégralité de la somme. Et donc, du coup, bah, pour les remercier, il leur a donné 500 francs suisses. C'est plutôt sympa.
C'est pas mal.
Bah, c'est bien.
Oui,
c'est une belle histoire. Vous seriez reparti avec, vous imaginez ?
Oui, mais je me serais pas enrichi humainement, comme ça.
On est bien d'accord.
Non, mais ouais, c'est très bien.
Margot, vous auriez finalement.
Oui, je pense que j'aurais fait pareil.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence en étant honnête et après on devient hypocrite.
Oui, c'est ça.
Eh ben, bravo. Allez, soyez les bienvenus sur RMC. Le retour de l'info dans 2 minutes. Pas plus de 3 délestages dans la même école sur toute la période de coupure de courant. Voilà les précisions du ministère de l'Éducation. Précisions faites au syndicat. Réaction justement d'un syndicat, le SNES FSU. C'était la une du journal de 7h. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.